Bonjour et bienvenue sur l'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je m'appelle Tristan Ito et je reçois aujourd'hui Julie Orgelet. J'ai découvert Julie alors qu'elle était interviewée par un podcast et elle y parlait fort bien d'éco-conception. C'est normal, c'est son métier puisque Julie est consultante dans les domaines de l'analyse du cycle de vie, de l'éco-conception et de l'économie circulaire. Comme ce sont des concepts centraux quand on parle de numérique et de climat, je me suis dit que ça serait bien de l'avoir au micro pour qu'elle nous explique tout ça. Bonjour et bienvenue Julie.
Bonjour.
Bon alors, qui es-tu, ton métier, ta vie, ton âge, tout ? Le monde veut savoir.
Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Julie. J'ai 36 ans, depuis pas longtemps. J'habite un petit village qui s'appelle Saint-Ondra, qui est au nord Isère. Alors, chez nous, on appelle ça les terres froides. Depuis pas très longtemps, je suis une ex-citadine, ex-grenobloise. Je suis consultante, comme le disait Tristan juste avant. Je travaille avec les entreprises à leur faire prendre conscience de l'impact environnemental que peut avoir le numérique et à essayer de les aider à le réduire. Voilà, ça c'est mon engagement 4 jours par semaine. Et puis sinon, je suis maman de 2 enfants. Et puis, je suis coordinatrice bénévole sur un projet de tiers-lieu qui s'appelle le collectif voisin dans un des quartiers de l'abbaye. Voilà.
Ok, super. Bon, t'as une vie bien complète. Et effectivement, j'ai compris, donc 4 jours par semaine, t'as dit, pas 5.
Ah non.
Et c'est pas que t'es une feignasse, c'est que tu en fais d'autres choses à côté. T'élèves des enfants, tu bosses sur le tiers-lieu, mais t'as mis le curseur, non pas à 100% des 5 jours, mais à 80% des 5 jours de travail.
Même écoute, idéalement, j'aimerais arriver à 3 jours et demi.
Et ouais, mais comme t'es consultante en plus, enfin, c'est un truc que tu peux ajuster, quoi.
Exactement.
Parce que tu fais des missions, ouais, ça c'est génial. Alors, comment es-tu arrivée à prendre conscience de la crise climatique ? Est-ce qu'il y a eu une révélation un jour ?
Alors moi, je crois que c'est la conscience climatique, c'est un truc qui m'habite depuis très longtemps. Mon premier souvenir de prise de conscience, il date de mes premiers exposés au collège, en 4e, 3e, où j'avais fait un exposé sur des petites feuilles A5, avec la, je ne sais pas si vous voyez, mais cette terre-là, avec son thermomètre dans la bouche qui est en train d'exploser. Donc moi, c'est un truc qui est hyper présent pour moi depuis très longtemps. Bon, j'ai fait une prépa, j'ai cherché une école d'ingé, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, mais je savais que je voulais que ce soit aussi en lien avec l'environnement et avec presque les sciences sociales, parce que moi je rejoins l'environnement et les sciences sociales, donc être vraiment plutôt sur des soft skills. Mais jusqu'à présent, j'avais pas vraiment de notion de gravité, d'urgence, ou voilà, je savais que c'était un truc présent, c'était un truc sur lequel on pouvait agir, mais pour moi, on pouvait le faire, quoi. Il fallait le prendre conscience, ça pouvait être quelque chose de doux, etc. Je suis devenue consultante
en... Et là, t'en parles au passé, ça a changé d'avis
ouais,
depuis.
Je suis devenue consultante en 2008 avec vraiment cette idée de la bonne élève qui se dit si on accompagne les entreprises, les gens, si on leur en parle bien, puis s'ils font des efforts pour réduire, on va y arriver, il n'y a pas de problème, quoi. Donc je suis rentrée là un peu dans cette idée de la croissance verte, finalement vraiment convaincue qu'on pourrait continuer à vivre comme on vit là.
Ouais, quelques ajustements à la marge vont nous sortir d'affaires.
Mais voilà.
Ça c'était ton idée, mais avant.
C'est ça. Ça, c'était mon idée avant. J'ai bossé sur la CV, sur l'éco-conception et tout ça, mais de manière pas forcément très radicale. Et puis, dans un groupe où la liberté de parole, elle n'était pas toujours évidente pour des clients avec qui, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, c'est pas aussi évident. Mais en fait, on a quand même le nez dans les indicateurs, réchauffement climatique, eutrophisation de l'eau, la toxicité, etc. Et voilà. Et je me suis rendu compte en 2016, en lisant Naomi Klein, Tout changer,
oui,
que c'était vraiment horrible, que c'était vraiment la catastrophe. Et là, ça a été le drame. C'était ma première grosse claque. J'ai eu ma fille dans cette même période-là et je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire des enfants dans un monde aussi pourri, quoi ? Et je me suis vue comme étant quelqu'un de hyper lâche, qui n'avait pas voulu ouvrir les yeux, qui pensait bien faire, mais en fait qui n'était pas du tout là où il fallait aller en termes d'action, en termes de radicalité, etc. En fait, je me voyais comme quelqu'un de vendu.
Ouais, mais t'avais une traîtresse, mais qui n'avait pas voulu vraiment trahir. C'était juste qu'on t'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire.
Ouais, et du coup, j'étais bien à ma place, j'étais gentille, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais D'un autre côté, je m'étais rendu compte que je m'étais aussi voilé la face par rapport à ce que je faisais. Je me donnais bonne conscience, quoi.
Bah, oui, mais c'est vachement plus confortable. Et beaucoup de gens sont comme ça. Enfin, c'est pas facile d'ouvrir les yeux parce que ce qu'on voit est pas forcément encourageant. Et que finalement, garder les yeux fermés, c'est vachement plus confortable. Enfin, je me fais l'avocat du diable, hein, mais c'est très humain, finalement, de pas vouloir...
Exactement. Et puis, c'est hyper douloureux de regarder vraiment.
Et puis, aussi, il y a cette notion de... Enfin, je pense qu'il faut aussi du courage... d'aller à contre-courant. Enfin, tu vois, je me reconnais quand tu dis que tu étais bon élève. Moi, j'ai essayé d'être bon élève aussi et de faire des études d'ingénieur et gna gna gna. Et on fait comme ceci et on pense comme cela. Et on pense, bah oui, la croissance, c'est bien. Enfin, c'est ce qui me faisait dire dans un récent podcast que le capitalisme est une religion, quoi. Et que si tu dis le contraire, enfin, si tu dis que la croissance, c'est mal, en fait, tu es en train de blasphémer, quoi. Enfin, où tu vas cracher sur les valeurs qui, en gros, fondent notre société aujourd'hui. Et c'est blasphématoire. Et un bon élève ne blasphème pas. Enfin, je veux dire, c'est que les choses soient claires. Donc, on t'a dit, mais non. Et donc, on te dit de fermer les yeux, de regarder ailleurs. Et puis, à un moment où tu ouvres les yeux, là, tu peux pas dévoir ce que tu viens de voir. C'est horrible. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je crois que c'est très intéressant ce que tu dis.
Non, mais pas de problème. Et tu vois, du coup, on s'est retrouvés, moi avec ma fille, en congé parental. Donc, par contre, moi, respecter le rythme, respecter la famille, c'est hyper important pour moi. Donc, ça a été aussi une période de ralentissement pour moi par rapport à mon activité de consultante, qui était aussi entre-temps devenue une activité de responsable d'activité, donc avec des gens à coacher, à manager, etc. Et là, je me suis dit, cette pause-là, bon, bah, il y a eu ce truc assez affreux de se dire, bah, en fait, j'ai mis au monde un enfant dans un monde qui va mal, vraiment mal, et ce que je fais n'est pas assez radical pour le rendre meilleur. Et d'un autre côté, il y avait ce truc de waouh, j'ai pris une pause, j'ai osé, quoi. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à faire que ça. Je suis retournée bosser, et puis avec cette césure, on va dire, ça m'est apparu comme étant absolument impossible de continuer comme ça. J'ai quand même décidé d'avoir un petit garçon. J'ai réitéré cette expérience-là parce que je pense qu'entre-temps, je me suis dit non, bah en fait, on peut quand même arriver à faire des choses. Donc, j'ai maturé les choses et j'ai décidé de quitter mon activité ancienne avec un projet avec mon compagnon qui était aussi de ralentir pas mal, quoi. 2018, donc, je me lance avec des deux mains en tant que consultante indépendante. Je gagne ma liberté de parole. En parallèle, je fais des interventions pour Alternatiba, je me rencarde avec trois copines et puis avec pas mal d'autres mondes sur un projet de tiers-lieu, ce qui s'appelait l'Orangerie à l'époque. Je bosse pas mal sur ce sujet-là, avec l'idée du tiers-lieu, c'était l'échange des savoirs et des savoir-faire. Enfin, et donc là, je me relance et je me reprends une autre claque. Bam, je me fais une fresque du climat et là, je me dis, putain, en fait, vraiment, 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 là, il faut y aller, quoi. Et cette fresque du climat, pour moi, elle a été hyper violente parce qu'elle a permis de mettre plein de choses côte à côte que je savais depuis des lustres et que mon cerveau avait tout à fait bien fait de... Pas occulté, mais vraiment pas mis les uns à côté des autres parce que c'était trop dur, quoi. Du coup, la fresque du climat, c'est un truc que tout le monde trouve génial et moi, je trouve ça hyper violent, en fait. Et je me suis rendu compte que moi, ça me permettait d'avancer, d'avoir un certain nombre d'informations. Et voilà, je venais de me remettre en mouvement et je me suis dit, mais merde, c'est hyper, hyper violent ce truc. Et la deuxième partie, les gens ne sont pas accompagnés pour rebondir en fait. Et moi, je sais que je venais de me prendre une claque, que j'avais balancé plein de fric dans les thérapeutes pour essayer de remonter, balancé plein d'énergie pour re-rencontrer des gens, pour me mobiliser et tout ça. Et je me suis dit, en fait, on ne peut pas laisser les gens dans la merde comme ça, c'est pas possible.
Est-ce que tu en serais au point à dire de, il ne faut pas faire la fresque du climat ?
Non, mais il faut la faire bien accompagnée derrière.
Ouais. Ouais.
Et ça, c'est hyper important. Avec des gens qui soient bienveillants, qui soient capables de ramasser les autres à la petite cuillère, avec des temps d'échange longs, avec du partage de positif. Enfin, tu vois, c'est ce que tu dis dans ton podcast. L'idée, c'est quand même, il faut qu'on...
Oui, parce qu'il y a plein de sources d'espoir. Il faut se mettre en action et il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais le virage, il va être serré, quoi.
C'est ça. Du coup, reclaque pour moi. Et là, je me suis dit, ouais, il va falloir qu'on fasse d'autres trucs. Donc, j'ai monté, et on en parlera peut-être après, mais Econum, un atelier sur les éco-gestes numériques avec une copine qui est spécialisée en intelligence collective. Je suis allée faire des formations à la communication non violente, à la gouvernance partagée, du travail qui relie. Et voilà. Du coup, ben, aujourd'hui, j'essaye de mettre en pratique tout ça et de retrouver de la bonne humeur pour arriver à avoir de l'énergie et booster les autres, quoi.
Excellent. C'est génial. Bah, c'est, tu vois, en fait, c'est exactement la mission du podcast, quoi, quelque part. C'est montrer, bah, déjà, que tu as changé quand même ton parcours professionnel, enfin, tu as réorienté. Il y a un truc que tu as dit vite fait, tu as changé ta vie, enfin, je sais pas comment tu as dit, déjà tu as quitté la ville, enfin pourtant Grenoble, il y a pire hein, dans le genre, c'est pas New York, hein, et la mairie écolo, etc., enfin c'est quand même une ville super sympa, mais tu as décidé de ralentir aussi, mais en termes de revenus, sans vouloir être indiscret, comment...
Ouais, alors j'avais un positionnement au début hyper radical, c'est-à-dire je vais balancer tout le monde du conseil, tout ça, j'en ai marre, je veux faire un truc avec mes mains, etc. Il se trouve que c'est mon compagnon qui, lui, a balancé son métier d'ingénieur et devient charpentier. Donc, je fais, OK, va peut-être quand même falloir, on a deux gamins.
Faire rentrer des sous.
On mange bio, machin. Voilà. Mais du coup, on a ralenti à la fois en termes de revenus, au niveau familial, clairement. Ralenti en termes de temps de travail, clairement. Et moi, aujourd'hui, je serais absolument incapable de repartir à 5 jours par semaine. Avec 5 semaines de vacances, c'est impossible, en fait. J'ai besoin de me recharger. Donc, tu vois, on a ralenti de ce point de vue-là. Et puis, ben, on a ralenti aussi. La campagne, c'est pas la ville. Et, quand tu vas faire pousser des légumes, il faut que tu consacres une demi-heure tous les soirs. Et du coup, ça, c'est hyper... à la fois pas forcément évident, hein, dans une société qui va toujours très très vite,
ouais.
De se dire, OK, moi je vais essayer de recommencer à lire des livres, arrêter de passer mon temps à scroller sur Internet, machin.
Ah. Je vais, c'est tellement moi, mais j'y arrive pas toujours, hein. Mais oui.
Mais voilà, tu vois, là, moi j'aimerais me remettre au tricot, enfin j'adore toutes les choses qui sont manuelles, la bouffe, tout ça. Donc, ça me prend aussi pas mal de temps. Et quand on veut manger pas transformé, beaucoup végétal, tu vois, tout va dans le sens du ralentissement, en fait.
Ouais, mais avec des aspects positifs. Enfin, c'est-à-dire que tu as fait une allusion à l'idée de travailler avec ses mains, parce qu'il y a vraiment quelque chose de tellement positif à travailler, à produire avec ses mains, que ce soit du jardinage, de la réparation, ton compagnon qui est charpentier, etc. C'est très concret et il y a vraiment du bonheur à produire avec ses mains, faire la cuisine, faire pousser des légumes. C'est quelque chose qui te connecte dans le monde réel. Enfin, c'est autre chose que de scroller sur Internet.
C'est ça, et puis tu vois, l'autre fois, je partageais ça avec un collaborateur, ou je sais plus avec qui. Si, j'avais une envie irrépressible de mettre ma brioche sur LinkedIn. Parce que j'ai réussi à
c'est
faire...
C'est pas l'endroit brioche. Normalement, c'est Insta la brioche, merde.
Ah mais c'est pas Insta, moi.
Non mais moi non plus.
Mais si tu veux, c'était plus dans la logique, j'ai enfin réussi à faire une belle brioche avec une recette d'une amie, et je partage la recette avec des copains, ils font « ouais, je vais la faire », et tout, puis ils lisent la recette, ils disent « purée, il faut 3 jours ». Et là, j'avais envie juste de poster, parce que c'était un moment de ras-le-bol par rapport aux clients et tout ça, qui veulent toujours que ce soit fini avant d'avoir commencé. J'avais juste envie de poster ma brioche et de dire « ok, il faut 3 jours pour faire ça, et ben, pour bien bosser, il faut aussi du temps, quoi. Du temps pour se poser, pour libérer son cerveau et tout ça, et les choses, elles lèvent avec le temps.
Ouais.
Et même si je crois que dans le contexte de crise climatique, il y a un truc où on n'a pas le temps, mais il y a un truc où, en fait, il faut qu'on réapprenne à prendre le temps, à prendre du recul, à se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel pour nous, c'est quoi l'essence, etc., pour arriver à agir là où c'est juste et pas faire n'importe quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Tu te déplaces comment ?
Alors moi, sur tout ce qui est trajet quotidien, donc on a déménagé à la campagne depuis pas très longtemps, hein, depuis le début de l'année, et le deal, c'était on n'aura pas de deuxième bagnole.
Waouh !
Donc, avant d'acheter la maison, la première chose que j'ai fait, j'ai été me renseigner sur les vélos sur Internet. Et donc, j'avais commandé, moi, mon cargo électrique avant d'acheter ma maison pour être sûre de ne pas revenir en arrière et de se motiver. Bon, je vous avoue que c'est quand même carrément pas fastoche de se maintenir là, et que si par malheur mon compagnon laisse la voiture, j'ai quand même grosse tendance à prendre la bagnole. Mais non, moi, j'essaye de me déplacer principalement en vélo. En train pour tout ce qui est déplacement, je prends plus l'avion. J'ai bossé sur Toulouse en formation là, à la fin de l'année dernière. Non, la fin de l'année d'avant, je sais plus. Lyon-Toulouse, ça se fait en 1h20. J'ai fait tout pendant les grèves en mode soit du covoit, soit du train, etc. Pour moi, c'est hyper important, quoi.
Ouais, bravo.
Voilà.
Donc t'as un beau vélo cargo.
Aussi, quoi. Ouais. J'ai un magnifique vélo cargo qui peut transporter jusqu'à 200 kg de charge. Donc, moi inclus, mais deux gamins et des courses.
Oui, mais toi, tu fais pas 160 kilos et tes enfants, ils font 40 kilos à eux deux ou 45. Et voilà.
Ouais, c'est ça.
Bon. Et il est électrique, parce que c'est pas très plat chez toi, si ?
Ah non, j'habite à 500 mètres d'altitude.
Ah ouais.
Le village, enfin les Abrets, c'est à 150 mètres en dessous.
D'accord, donc t'as 150
Petit
mètres de
dénivelé.
dénivelé pour revenir, quoi. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc bon, là, on est déjà tombé en rade de batterie avec les enfants, pas trop loin de la maison, mais le retour a été folklorique. Hein.
Et maintenant, tu penses à bien recharger ta batterie.
Exactement. Même je vais faire un truc pas très écolo, mais je pense que j'avais commandé le vélo avec une seule batterie, et je vais commander la deuxième.
Bon. Je te donne l'autorisation. Tant que tu les utilises à fond et que tu les gères bien, c'est pas perdu. Qu'est-ce que tu fais à titre professionnel là? Parce que là, bon, on parle de plein de choses, mais il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est ACV. Il convient de dire que c'est l'analyse du cycle de vie. Et puis,
Exactement.
on a parlé d'éco-conception aussi. Ça, c'est deux termes que j'aimerais beaucoup que tu m'expliques. On va peut-être commencer par l'éco-conception, si tu veux bien.
Eh ben, l'éco-conception, c'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental de quelque chose, quel qu'il soit. Et donc moi, je bosse principalement sur le numérique et les équipements électriques et électroniques, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire les choses le mieux possible à fonctionnalité équivalente. Donc c'est un peu trouver le meilleur optimal environnemental. Du coup, ça passe par une réflexion qui est cycle de vie. C'est une réflexion qui est systémique, par contre, et ça va faire le lien après avec l'analyse du cycle de vie. Quand on éco-conçoit quelque chose, si vous êtes fabricant de crème de jour, si vous dites j'ai mis 10% de carton recyclé dans mon emballage, ça, c'est pas de l'éco-conception, en fait.
C'est
Et
quoi ça? C'est du greenwashing?
quand on va aller regarder un truc pour faire de l'éco-conception, on va se poser la question, ok, c'est quel service que je veux rendre? Et des fois, on arrive à la truc de, en fait, ton truc, il sert à rien, ou il y a des choses qui existent déjà. Et comment est-ce que je le rends de la manière la plus vertueuse possible, en fait? Et la manière la plus vertueuse possible, ça passe par, on va essayer de faire un espèce de diagnostic des choses. On va se poser la question, ok, quand je vais le penser, quand je vais le fabriquer, ce truc, quand je vais le mettre en service et quand il va être à sa fin de vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'analyse de cycle de vie, et on va quantifier tout ça. Et en fait, dans l'éco-conception, on va aller regarder ça et on va identifier bah, finalement c'est quoi les points les plus impactants. Est-ce que c'est la consommation d'énergie en phase d'usage? Est-ce que c'est la fabrication des équipements? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait watts milliards de fonctionnalités qui servent à rien? Est-ce que c'est parce que y a un flux qui transite sur le réseau qui est énorme et du coup on a la douche allumée à donf alors qu'on a besoin de 3 gouttes de flotte? C'est ça qu'on va aller regarder.
Et éventuellement, ça peut aller jusqu'à décider de ne pas implémenter, de pas inclure telle fonctionnalité, parce que finalement, elle n'a pas de sens.
Ah oui, ouais. Ça peut se dire en fait, non, j'ai pas besoin d'un site internet, j'envoie un SMS, quoi.
Ou je mets pas de vidéo parce que sur.
Je mets pas de vidéo parce qu'en fait personne la regarde. Et que finalement, bah, je sais pas, là les gens ils vont nous écouter, ben ils ont pas forcément besoin de voir que derrière moi il y a mon salon pendant 3 heures qui est pas rangé, qui est en bazar, etc. Tu vois, l'important c'est le propos.
C'est
Et du
aussi
coup,
pour
c'est
ça que je fais que
vraiment.
du MP3 voilà, qui est diffusé, hein. Ça permet d'avoir à la fois le côté humain de notre conversation et en même temps sans avoir des gigaoctets de vidéo
C'est ça.
pour ça,
Et
quoi.
l'éco-conception, ça revient à ça. Ça revient un peu à cette idée. En tout cas, moi, ce que j'aime faire maintenant, philosophiquement, c'est de se dire, en fait, ça permet de se recentrer sur l'essentiel, se reposer la question du besoin, de ce qu'on veut délivrer, etc., de ce qui est essentiel, etc. Et comment est-ce que on délivre cet essentiel avec l'optimum, quoi, en fonction de ce qui va être finalement ses impacts directs. Tu vois, les impacts directs, notre podcast, c'est que tu vas le stocker quelque part, il va transiter quelque part, etc. Et puis les impacts indirects, ça va être, soit il y en a qui vont se dire, oh, putain, elle est chiante quand elle parle, il y en a d'autres qui vont se dire, ah ouais, c'est chouette, bah, moi je vais peut-être aller faire ça et prendre mon vélo cargo alors que j'ai 150 mètres de dénivelé pour rentrer chez moi tous les soirs, quoi. Et ça, c'est des bénéfices. Et puis, il y a aussi parfois, moi, la grande frustration de mon métier aujourd'hui, c'est de dire que ben, quand j'accompagne les entreprises à faire de l'éco-conception, elles délivrent un service avec moins, et du coup, elles délivrent plus, donc elles font de la croissance. Et là, c'est là où, pour moi, il y a un paradoxe, quoi. C'est comment est-ce qu'on se dit, OK, on va réduire, être dans de la frugalité, et une fois qu'on a réussi, eh ben, cool, on va bosser pas 35 heures, mais 20 heures par semaine, quoi. Il y a ce truc-là qui est hyper important pour moi. Donc ça, c'est mon métier. C'est comment est-ce que on va essayer de réduire au maximum l'impact des choses et de leur donner du sens, quoi.
Et alors donc l'analyse du cycle de vie, j'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, mais bon, c'est trop tard.
C'est pas grave. Et ben, l'analyse du cycle de vie, si tu veux, c'est l'outil qui va permettre de mettre des chiffres sur tout ça. et comme tous les outils, il a des bons côtés et des mauvais côtés, qui permet de calculer les impacts environnementaux d'une solution, quelle qu'elle soit. Les impacts environnementaux, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui est multicritère. On va parler de dérèglement climatique, là on en parle depuis le début du podcast, mais on va penser aussi sur l'épuisement des ressources naturelles, la consommation d'énergie primaire, le stress hydrique, l'impact sur la biodiversité, etc. Et du coup, on va avoir une vue 360.
Et sur l'ensemble de la vie du produit, c'est-à-dire sa construction, sa livraison, son usage, sa réparation. Exactement. Et sa fin de vie aussi, tout prendre en compte. Et c'est donc ça, sur multicritères, parce que moi, c'est un truc, je sais, c'est cette conversation, je l'avais déjà eue avec Frédéric Bordage, c'est que moi, je suis assez branché gaz à effet de serre, énergie, mais que si j'essaye d'optimiser pour réduire les gaz à effet de serre, mais qu'en échange, ça fait que je consomme énormément, par exemple, d'eau pour soit faire des produits, soit pour refroidir mon data center, bah, en fait, j'ai loupé une opportunité de bien faire, qui est, oui, il faut réduire l'énergie, mais il faut pas non plus augmenter la consommation d'eau.
C'est exactement ça. Et tu vois, c'est par exemple, quand on va bosser sur le bâtiment, un truc, c'est souvent quand on fait de l'efficacité énergétique, on rajoute énormément d'électronique. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on rajoute beaucoup de stress sur l'épuisement des ressources naturelles. Et là, ben, on a un transfert de pollution. Et si on avait eu une approche cycle de vie, par exemple, pour la voiture, on ne serait jamais passé sur le diesel. On serait rendu compte qu'on avait des problèmes locaux de pic d'ozone, etc., à cause du diesel. Mmh. L'idée de l'analyse du cycle de vie, c'est vraiment d'éviter les transferts de pollution au niveau des différents impacts, de travailler sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire que moi, quand je bosse avec un professionnel, je dis « Ok, on ne va pas se résumer à votre périmètre d'action ». On va prendre toute la vie du produit. On va se responsabiliser par rapport à toute la vie du produit. Et on parle de produit là, mais ça peut être un service numérique. C'est-à-dire, tu balances pas un service si tu sais pas où est-ce que tu vas stocker tes données, comment est-ce que c'est ta politique d'archivage, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans, etc. Ça permet de se projeter et de se responsabiliser par rapport aux impacts du ici et maintenant, mais aussi de chez mon client tout à l'heure à la fin de vie pour mes enfants, quoi.
Pour prendre un exemple vraiment au ras des pâquerettes, le propriétaire de Tesla, il a l'impression d'être écolo parce qu'il rejette aucun gaz à effet de serre, et c'est vrai mon coco, mais alors après, faut regarder tout quoi. Il y a la fabrication de ton véhicule électrique a nécessité beaucoup plus de ressources qu'une voiture thermique traditionnelle. En plus, si tu la recharges en Allemagne ou en Pologne, et ben en fait, t'alimentes ta Tesla avec du charbon, hein, ce qui est complètement contre-productif.
Mais parce si que tu l'alimentes en France aussi aux heures
et
de pointe.
En France, hein. Non, c'est pas grave, t'as juste des déchets nucléaires. Donc,
t'as juste des déchets nucléaires sur les moments où t'es en régime de croisière, mais si tu t'es sur les pointes au moment où tout le monde allume son chauffage en hiver, t'es sur du charbon, du gaz.
Donc c'est vraiment voir plus large que simplement pendant mon usage, je ne produis pas de gaz à effet de serre. Non, mais justement, de la production du produit jusqu'à la fin, avec les problèmes de batterie et tous les impacts que ça a, finalement, on voit le problème dans son ensemble, plutôt que de se focaliser sur le truc cool de j'ai une Tesla, donc je suis écolo.
Ou je suis un producteur de services numériques, j'en ai rien à faire de ce qui peut se passer dans le data center puisque je suis dans le cloud, je suis dans le nuage.
Oui, ou bien j'ai un service numérique qui est écolo parce que j'utilise tel data center, par contre mes API, etc. Nécessitent qu'avec des terminaux 5G par exemple.
Exactement. Voilà.
Bien. Le temps passe atrocement vite, donc on va directement te demander quelle est une source d'espoir pour toi. Parce que quand même, t'as le sourire, donc il doit y avoir quelque chose.
Ouais, moi, l'espoir, c'est vraiment que les gens qui sont autour de moi, déjà, ils changent. Le nombre de gens qui changent dans mon entourage proche, mes deux frangins, par exemple, sont hyper engagés, etc. J'aurais même tendance à dire beaucoup plus que moi. Mes amis qui changent aussi. Les gens que je rencontre en formation, il y a 10 ans, quand je formais des gens, les gens, ils venaient à reculons, ils disaient « le climat, c'est n'importe quoi ». J'avais quasiment systématiquement dans mes formations ou dans mes sessions de cours avec des étudiants en école d'ingé des climato-sceptiques. Aujourd'hui, ça n'arrive quasiment jamais et on a un niveau de conversation qui est tellement au-dessus et de prise de conscience, je dirais, de ce qu'il faut qu'il change dans la société. Alors, je sais, hein, on est dans des silos, on y reste, etc. Mais franchement, je suis assez épatée par la vitesse à laquelle ça va et l'authenticité avec laquelle on peut aller sur ces sujets avec des gens qu'on connaissait pas quelques
ouais,
heures
ça,
avant.
C'est vrai que c'est cool, hein. Ça progresse. Pas assez vite, mais ça progresse quand même. Mais donc on va continuer dans ce sens-là, c'est très important. Ouais, c'est vrai que c'est une super nouvelle. Alors, quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs, alors que ça peut être une BD, un livre, etc. Et c'est pas forcément sur le climat.
Tac, j'ai droit à deux.
Ouais, allez, vas-y, c'est cadeau.
Je recommande « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs » de Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non-violente.
Ouais, ça, c'est un must total. C'est extraordinaire.
Ouais, c'est un truc qui change la vie parce qu'on ne parle pas que de communication. On parle de violence et de violence qu'on fait aux autres, mais aussi de violence qu'on fait à soi. Et pour changer, c'est hyper important d'avoir conscience de ça.
Ouais, et tu sais quoi, je pense qu'une formation à la CNV, donc la communication non-violente, devrait être obligatoire sur Twitter, par exemple. Ça changerait complètement l'ambiance.
Exactement. Ouais, ouais, et puis ça ne veut pas dire qu'on est gentil hein, quand on fait de la communication non-violente, mais ça veut dire qu'on revient à soi. Et qu'on est capable d'aller un peu comprendre les autres, et c'est important.
Oui, ça ne veut pas dire qu'on se laisse marcher sur les pieds, ça veut dire juste qu'on exprime son besoin dans le respect de l'autre pour qu'il nous entende bien. Et après, on discute, quoi.
Exactement. Ouais. Mais du coup, ça, c'est hyper important, je pense. En tout cas, moi, dans ma transformation personnelle, ça m'a beaucoup aidé.
Ouais, c'est génial, je confirme.
Il y a peut-être aussi dans la transformation perso, « Arrêtez d'être gentil, soyez vrai », qui est plus facile à lire et qui a une version BD pour les plus feignants.
Ouais. Ah ouais, ah bah super, je mettrai les liens sous le podcast.
Et puis la dernière pour les amateurs de BD et d'optimisme, une BD qui s'appelle Johann Lepster, Les débuts d'un nouveau monde, qui parle d'une utopie et de gens qui ont réussi à créer un monde sans argent. Et je trouve ça, ça fait rêver quoi.
Bon, c'est bien, moi je suis fan de la notion d'utopie. Je ne l'ai pas dit, mais moi j'ai passé 6 mois à essayer d'écrire un roman utopique sur le climat, sans succès. Enfin, en tout cas, je n'ai pas abandonné le projet, mais pour l'instant, je fais autre chose. Et ouais, je pense que c'est super important de donner des images d'un monde désirable. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du futur, on parle beaucoup de Mad Max, etc. Enfin, tu vois, des dystopies, c'est formidable, ça permet de raconter des histoires hyper tendues, dramatiques et tout. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est pas d'être distrait, mais plutôt d'être emmené dans quelque chose de désirable, vers un monde désirable, une vision désirable. Et ça, c'est l'utopie qui le permet. Et un message court, positif, mobilisateur, excitant, sympathique et souriant, pour conclure.
Ben, moi, je dirais que, en tout cas, ma philosophie, c'est que chaque pas vers le changement, il est beau, même s'il est difficile et qu'on en apprend plein de choses. Et en tout cas, ça permet de grandir et c'est tellement chouette, quoi. Voilà.
Ouais, et chaque grand voyage a commencé par un pas, puis un autre pas.
C'est ça. J'ai fait un stage de gouvernance partagée à l'université du Nou et il disait l'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Et je pense que soignons le chemin.
Excellent. Eh ben écoute, là, tu viens de faire un magnifique pavé qu'on va mettre sur ce chemin avec ta contribution au podcast L'Octet Vert. Merci infiniment, Julie. C'était délicieux et souriant et sympa. Et en plus, avec une assistance électrique. Donc, c'était bien. On a parlé de vélo. ça fait de moi un homme heureux. Merci beaucoup à toi et à bientôt.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Salut.